Roger m'a demandé d'intervenir, m'a demandé un thème au pied levé. Donc j'ai proposé ce thème-là qui peut être à la fois provocateur dans son titre, mais en fait qui rejoint une thématique très très connue, de savoir penser Dieu à Prépourim, l'absence de Dieu à Prépourim, etc. Parce qu'on sait que la Megillah a ceci de particulier, que le nom d'Hachem n'apparaît pas du tout dedans, donc au niveau de la forme. Non seulement ça, mais l'action divine dans la Megillah, elle n'est pas évidente non plus. Or, ce n'est pas des grands miracles, de changement de la nature, etc. Au point qu'effectivement, il y a des auteurs ultra-critiques qui sont allés jusqu'à dire que, finalement, Megillat Esther, à la base, c'est pas du tout un texte religieux. Pour des raisons obscures, on l'a intégré dans le canon biblique. Mais à la base, c'est une pièce de théâtre ou je ne sais quoi. De facto, Racine en a fait une pièce de théâtre. C'est un bon matériau. C'est bien ficelé. C'est un bon scénario. Il y a du suspense, il y a du rebondissement. Mais c'est pas a priori Sifrei Kodesh. Alors, comme je suis un élève de la yeshiva qui a fait de moi un fondamentaliste talmudique, j'ai comme principe que tout est dans le Talmud, et donc on va regarder dans le Talmud comment est-ce que cette notion-là elle est abordée. Et la force du limoud, c'est justement de nous donner des outils concrets pour pouvoir penser ces problématiques-là. Donc cette problématique, pour la résumer en quelques mots, c'est ça. Quel est le rapport entre écrire un texte sans mettre le nom divin dedans, écrire une histoire sans faire ressortir l'intervention divine, et pour autant que c'est quelque chose qui s'intègre quand même dans ce qu'on va appeler Sifrei Kodesh. Alors, et non seulement ça, mais on va instituer une fête autour de ça. Alors, donc le rapport entre cette Megillah Esther et Purim. Mais qu'est-ce que nous, on peut tirer de cette nouvelle configuration dans notre expérience spirituelle contemporaine? Alors, il y a deux textes que je vous ai photocopiés, là, sur une feuille recto verso, dans Maseret Megillah, qui traitent de ces questions-là. Premier texte, Daf Zayin Amoud Alef, c'est sur comment est-ce qu'on en est venu à accepter d'intégrer Megillat Esther dans les Sifrei Kodesh, dans le canon biblique, pour le dire rapidement. Et le deuxième texte, en Yud Dalet, c'est pourquoi est-ce qu'on a institué la mitzvah de Purim, la mitzvah de la lecture de la Megillah. Et vous voyez, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même question. C'est des questions qui sont liées, mais ce n'est pas tout à fait la même question. Alors déjà, on va lire les textes rapidement. Après les événements de Purim proprement dit, Shalcha lahem Esther, la Chachamim, kitvuni les dorot. Esther a fait envoyer aux Chachamim, c'est-à-dire aux sages de la grande assemblée, c'est-à-dire l'organe législatif suprême du peuple juif, écrivez-moi pour les générations. Shalchula, hallo, katafti lecha shelishim, shelishim. Ils lui ont renvoyé à un texte qui est dans les Proverbes de Salomon, dans Michelet, où on parle de comment est-ce que la sagesse, elle est assurée. Elle est assurée parce qu'elle est écrite de manière triple. Dit le texte, je paraphrase un petit peu, c'est pas simple du tout l'argumentation ici dans la Gemara. Apparemment, l'argument c'est voilà, on voit dans Sefer Michelet que un enseignement a besoin d'être répété trois fois et pas quatre fois. Ah, chez Matsoulo Mikra. Jusqu'à ce que finalement ils changent d'avis, ils acceptent d'intégrer la Megillat Esther dans le Tanakh sur la base d'un verset dans la Torah. Katouf Batora, il est écrit dans la Torah, Ketov Zot Zikaron Basefer. à propos de la mitzvah d'effacer Amalek, il y a écrit, Hachem dit à Moshe, écris cela, un souvenir, dans un livre. Dans le livre. Ktov zot, mashekatuf kan, ou bemishne Torah. Quand on dit écris cela, ça veut dire ce qu'il y a dans le Chumash. Alors, sauf que dans le Chumash, il y en a deux fois. Il y en a dans Shemot, et c'est répété dans Mishneh Torah, c'est-à-dire dans Sefer Dvarim. Mais c'est une seule unité. Zikaron, le rappel, c'est Mashekatuv Baneviim, ce qui est écrit dans Sefer Shmuel à propos de Shaoul, etc. Ça, c'est la deuxième occurrence de la mitzvah d'effacer Amalek. Basefer, dans un livre, dans le livre, Mashekatuv Bamegila. Donc là, il nous reste le troisième terme, dans un livre, ça sert à dire qu'il faut que ce soit répété une troisième fois dans la Megillah. Mais donc on a une fois dans la Torah, une fois dans l'Envi, en fait deux fois dans la Torah, mais qui compte comme une fois dans l'Envi, une fois dans l'Ektuvim. Donc on peut considérer qu'il y a besoin d'avoir le rappel de la mitzvah d'effacer Amalek dans l'Ektuvim. Ketanae, en fait ça, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est un débat entre Tanaïm sur comment est-ce qu'on découpe ce verset. Ktov zot, mashekatuv kan, zikaron mashekatuv bemishne Torah, besefer mashekatuv binvim, divrei Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer Amodai, Omer ktov zot, mashekatuv kan ou bemishne Torah, zikaron mashekatuv banevim, besefer mashekatuv bamegila. Donc, Rabbi Eliezer Amodai, il pense comme nous que la structure triple, c'est Torah, Nevim, Ketuvim. Alors que Rabbi Yehoshua, il dit non. Tu as déjà deux fois dans la Torah. Et dans la Torah, les quatre premiers livres et Sefer Dvarim, c'est deux unités différentes. Et une troisième fois dans Nevi'im. Et il n'y a pas de raison de le répéter une quatrième fois dans Ketuvim. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Esther ena metameet, metamea et ayadaim. Dans le prolongement de cette discussion-là, Rav Yehuda rapporte au nom de Shmuel que Megillah Esther, ça ne rend pas impur les mains. Alors, juste parenthèse rapide sur ces halakhot-là. Dans la Mishnah de Yadayim, on discute de que certains textes sacrés se sont vus attribuer par les sages une impureté rituelle. Alors, c'est une question qui est très compliquée. L'idée telle qu'elle est exprimée en général dans la Gemara, c'est que en fait les gens avaient tendance à stocker les choses qui sont kadosh au même endroit. C'est-à-dire on stockait les sifrei Torah et les sifrei Kodesh à un endroit, et on stockait la Trouma, c'est-à-dire les prélèvements agricoles qui avaient une certaine kedusha, on les stockait au même endroit. Pourquoi est-ce que les gens ils faisaient ça? Ça peut paraître bizarre aujourd'hui. En tout cas, c'est ça la raison qui est donnée. Et donc pour éviter ça, on leur a dit ah non non, mais la Trouma vous pouvez la manger que dans un état de pureté rituelle. Donc, on décrète que les écrits qui sont Kodesh, paradoxalement, transmettent une impureté rituelle d'ordre rabbinique aux mains. Comme ça, vous n'allez pas stocker les deux en même temps, parce que sinon, il y a des souris qui viennent manger les grains et mangent les sfarim. Enfin, c'est problématique. Donc, la discussion ici, c'est de dire, voilà, Esther, elle a ce statut de Kodesh qui fait qu'elle transmet une impureté rituelle au niveau des mains. Et Shmuel, il dit, non, eh ben, Esther, ce n'est pas le cas. Donc Esther ne fait pas partie des sifrei Kodesh. Le même rat de savoir Shmuel, Esther, love, ben, wacha Kodesh, Nemra. Alors, là, c'est la grande discussion. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne fait pas partie des sifrei Kodesh? Ça veut dire que ça n'a pas été dit par wacha Kodesh? Bon, je ne sais pas encore ce que ça veut dire exactement, wacha Kodesh, ici. Mais on va essayer de le comprendre. Mais là, ce qui est mis en cause ici, c'est, voilà, a priori, on penserait que si quelque chose a été dit par Ruach HaKodesh, par inspiration sainte, par inspiration divine, sans doute, alors ça a sa place dans les sifrei Kodesh. Or, Shmuel, il dit que Esther ne fait pas partie des sifrei Kodesh. Et pour autant, il dit Amar Shmuel, Esther Beruach HaKodesh Nehemra. La Megillat Esther a été dite sous l'inspiration divine. Donc tu vois bien que Sifrei Kodesh et Sefer qui a été écrit par Ruach HaKodesh, ça n'a pas l'air forcément d'être équivalent. Alors, il répond, quelque chose de très bizarre, Nehemra Likrot, mais lo Nehemra Lirtov. Elle a été dite pour être récitée, mais pas pour être mise par écrit. Je ne sais pas pour l'instant ce que ça veut dire, je ne sais pas si on saura à la fin, mais l'idée générale c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une différence apparemment entre un texte qui est d'inspiration divine et qui est fait pour être récité oralement et un texte qui est fait pour devenir un livre et rentrer dans les Sifrei Kodesh. Et en fait, cette notion-là que du rapport entre Sifrei Kodesh et Ruach HaKodesh, c'est en débat chez les Tanaïm aussi. Pour l'instant, je vous fais la lecture de la Gemara comme ça, un peu à la serpe, et ensuite on reprendra par étapes pour essayer de comprendre ce qu'on peut en tirer. Métivé, on objecte à Shmuel. Rabbi Meir Omer, Kohelet eno metamet a Yadaïm. Machloket Beshir Hashirim. Rabbi Meir, c'est cette fameuse discussion sur qu'est-ce qui rentre dans le cas de Sifrei Kodesh. Rabbi Meir dit Kohelet, l'Ecclésiaste. Ça ne fait pas partie des Sifrei Kodesh. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et sur Shir HaShirim, sur le Cantique des Cantiques, il y a un débat. Première option. Rabbi Yossi Omer, Shir HaShirim, Metamet HaYadayim. Machloket BeKohelet. Rabbi Yossi dit l'inverse. Tout le monde est d'accord que Shir HaShirim est Kodesh. Enfin, fait partie des Sifrei Kodesh. Et Kohelet, c'est là-dessus qu'il y a un débat entre les Chachamim. Rabbi Shimon Omer, Kohelet fait l'objet d'un débat. Mikoulé Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Ça fait partie des cas où Bet Shammai est plus Mahmir que Bet Hillel.
Non, c'est le contraire. Bet Shammai est plus Mekil.
Bet Shammai est plus Mekil que Bet Hillel, pardon.
Plus allégeant, il est plus allégeant.
Voilà, il est moins strict.
Permissif. Permissif.
Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire quand Beth Shammah il est Mekil, ça veut dire qu'il considère que Kohelet fait partie des Sifrei Kodesh?
Non,
Que
c'est
c'est
pas Sifrei
pas.
Kodesh.
C'est pas Sifrei Kodesh, c'est ça. Donc ils n'ont pas décrété de Touma dessus. Donc en fait, ils sont plus stricts. Voilà, ils sont plus stricts sur la définition du canon biblique, pour le dire rapidement, mais ils sont plus cool sur la définition de la Touma, de l'impureté. Aval Ruth, Veshir Hashirim, Ve Esther, Betamim et Tadaim. D'après Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord que Ruth, Veshir Hashirim, Ve Esther, ça fait partie des Sifrei Kodesh. Hu Deamar, Rabbi Yeshua. En fait, il faut dire que Shmuel, qui pense que Esther ne fait pas partie du canon biblique, parce que pour l'instant, dans les Tanaïm, on n'a trouvé personne qui disait ça doit être comme Rabbi Yeshua. Tania Rabbi Shimon ben Menasya, Omer Kohelet eno metamet hayadayim. Parce qu'on voit que Rabbi Shimon ben Menasya disait Kohelet ne fait pas partie des Sifrei Kodesh, Mipene, chez Chochmato, chez Shlomohi. Parce que Kohelet n'est pas d'inspiration divine, c'est uniquement le produit immanent donc, de la sagesse du roi Salomon. C'est très bien, mais ça n'en fait pas un livre Kodesh. Amroulo, ils vont rétorquer. Vechizo bilva damar, vealo kvar neemar, vaidaber shloshat alafim, machal, veomer al tosef al devarav. Maï Véomer, Véchitema Memra Tova, Amar, Deibae Irtov, Vadaibae Loirtov. Finalement, pour résumer rapidement, si tu dis que Kohelet, c'est que la sagesse de Shlomo Ameler, mais Shlomo Ameler, il a écrit plein d'autres bouquins. On vous dit qu'il a écrit 3000 proverbes, etc., etc. Donc finalement, pourquoi est-ce que Kohelet il aurait un statut particulier si c'est un livre de Shlomo Ameler à les autres? S'il a un statut particulier, c'est bien qu'il y a quelque chose qui le distingue des autres ouvrages de sagesse de Salomon. J'avance un petit peu. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Esther Beroach HaKodesh Nemra, Shenemar Vayomer Haman. Ensuite, il y a toute une discussion que je passe un petit peu sur comment est-ce qu'on sait que Esther a été écrite par Roach HaKodesh. Et là-bas, on discute parce que, par exemple, dans la Megillat Esther, il y a marqué que Haman s'est dit en son cœur. Alors comment est-ce que Esther, elle sait ce que s'est dit Haman dans son fort intime? Ça veut dire que ça lui a été révélé par inspiration divine. Ou comment est-ce que Mordechai, il a eu vent du complot contre Achashverosh? C'est parce que ça lui a été révélé par inspiration divine. Alors à tout ça, on rapporte des objections. Et on conclut que finalement, la meilleure preuve, c'est que dans la Megillah, il y a marqué que la fête de Pourim ne sera jamais oubliée. Et donc, du fait que là, c'est une assurance vers le futur, c'est la marque que ça a été écrit sous l'influence du roi HaKodesh, parce que personne ne peut écrire ça de manière véridique s'il n'en a pas eu une assurance surnaturelle. Alors, maintenant qu'on a fait ce texte un petit peu long, je le reconnais, on va essayer de reprendre les différentes étapes. On a un débat entre Esther et les sages sur savoir pourquoi est-ce que on pourrait refuser de faire rentrer Esther dans Sifrei Kodesh. La première raison, que j'ai sauté d'ailleurs, c'est pas grave.
Tu as sauté deux lignes.
Ouais, il y a autre chose qui était avant. Mais c'était avant. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Shalcha lahem Esther Chachamim, Kaveuni le Dorot, Shalchu la Akina at Meoreret Alenu, Leven Haumot, Shalcha lahem, Kvar Ketuva Ani, Al Divra Yamin, Malche Parasumadai. C'est ce qui est annoncé avant, quand Esther leur a dit fixez-moi pour les générations dans un texte. Première réponse de Chachamim, c'est pas possible. Parce que ça va, pour le dire dans des termes contemporains, ça va provoquer de l'antisémitisme. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle leur répond? Non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je suis, comme c'est écrit dans la Gemara, je suis déjà inscrite dans les chroniques royales de la Perse et de la Médie. Et ça fait sauter apparemment le premier motif de refus. Or là-dessus, il y a deux chitotes, deux modes de lecture sur cet argument, qui est déjà très important. Parce qu'on voit que finalement, le texte de Megillat Esther, en tout cas le récit des événements de Pourim, relève, en tout cas Esther veut que ça relève des Sifrei Kodesh, mais ça relève aussi de l'histoire des nations. Ça fait déjà partie des chroniques historiques de la nation perse. Et apparemment, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait posé un problème au Chachamim. Et là-dessus, il y a donc deux lectures. La première lecture, c'est celle de Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui dit que c'est pour ça que le nom d'Hachem n'apparaît pas dans Megillat Esther. Parce que, quand Mordechai et Esther ils ont écrit la Megillah, ils savaient que ça allait être intégré dans les chroniques historiques de la nation perse, et que donc, eux, si on mettait un nom divin, eux, ils allaient corriger le texte, et à la place du nom d'Hachem, ils allaient mettre le nom de leur divinité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le nom divin dans la Megillah, pour éviter ça, pour éviter ce problème de traduction. L'autre chita qui finalement revient plus ou moins au même, mais qui est encore plus audacieux dans sa formulation, c'est celle de Rabbi Yitzhak Arama, dans Akadat Yitzhak. Et il dit la version d'origine de la Megillat Esther, c'est celle qui est dans les chroniques de Perse. C'est pour ça que le nom d'Hachem, il n'apparaît pas, parce qu'à l'origine, c'est un texte qui fait partie des chroniques historiques de Perse, et qui a été écrite par Mordechai en tant que fonctionnaire perse, et qu'il l'a fait dans l'idée qu'ensuite, il a juste à faire un copier-coller, il l'envoie au sage de Yerushalayim, et on l'intègre dans les Sifrei Kodesh. Donc, c'est un texte très particulier au niveau de sa forme. Il ne présente pas le nom d'Hachem parce que il relève à la fois des Sifrei Kodesh et des livres d'histoire Chol. Particulier quand même. Et ça, apparemment, les Chachamim, ça les arrange plutôt. C'est-à-dire, dans le contexte de la Megillat Esther, si on avait écrit un livre trop ouvertement religieux, disons, alors ça aurait posé problème. Mais si on écrit un texte qui répond aux exigences de l'écriture historienne, alors c'est pas un problème, et c'est pas forcément une raison pour l'intégrer dans les Sifrei Kodesh, mais ça enlève une raison négative de le refuser. Alors, deuxième motif, qui est le plus compliqué, c'est cette histoire de structure tripartite. Ketov, Zot, Zikaron, Bassefer. Et on voit que le débat entre les Tanaïm, il est comme ça. Il y en a qui pensent que la structure tripartite de la Torah en général, c'est Torah, Nevim, Ketuvim. Et il y en a qui pensent que le module Torah, il est déjà double. C'est Torah, les quatre premiers livres de la Torah, Chumash Devarim et Nevim. Alors, en tout cas pour la mitzvah de Amalek.
Mais ce verset de Michelet qui dit que la science, la Chorma, est triple, elle ne parle pas de l'histoire d'Amalek spécifiquement.
Non,
c'est général.
C'est général, c'est général. Mais pour Amalek, on a un passouk qui a l'air de dire que, enfin, en tout cas, le débat il est sur
dans d'autres catégories.
Voilà.
Triple, mais dans d'autres catégories.
Voilà. C'est un prat, quoi. Un prat sur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Chokhmah doit être triple?
Putain, j'en sais rien.
Ah, c'est une question.
Ouais, c'est une question. C'est une question, mais en tout cas, on voit que la question de comment tu triples ça, c'est savoir finalement comment est-ce que tu comptes Sefer Dvarim d'une part, et comment est-ce que tu comptes Ketuvim, en fait, spécifiquement Megillat Esther d'autre part. Donc, il y a l'air d'avoir un rapport de similitude entre Sefer Dvarim et Megillat Esther. Or, Sefer Dvarim, c'est quoi sa spécificité? C'est que c'est le seul où Moshe, il parle à la première personne. D'accord? Tous les autres, les quatre premiers livres de la Torah, c'est HaKadosh Baruch Hu qui dicte à Moshe ce qu'il doit écrire. Alors que Sefer Dvarim, c'est l'inverse. Moshe, il fait un discours, et ce discours-là fait ensuite partie du Chumash. D'accord? Donc il y a une synchronicité, pour parler en Jungien, entre la parole humaine de Moshe Rabbeinu et l'intention d'Akadosh Baruch Hu d'en faire un texte. Et ça a l'air d'être la même chose ici. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre une parole qui est à la base strictement humaine et une intention divine d'en faire un texte. Et de la même façon, on voit que c'est des moments qui sont des moments liminaires, des moments de seuil, de passage. Parce que finalement, le discours de Moshe Rabbeinu, il intervient à la fin de sa vie. C'est-à-dire au moment où on va passer dans un autre mode de rapport historique et de rapport à Kadosh Baruch Hu, et de rapport à la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Quand c'était les quatre premiers, quand on était en Chumash, dans le désert, etc., Kadosh Baruch Hu, il est là, tu ne peux pas faire autrement que d'admettre sa présence. À partir du moment où on rentre en Eretz Israël, on rentre déjà dans quelque chose où Kadosh Baruch Hu, il n'agit pas de manière aussi évidente. Et Esther, ça a l'air de fonctionner un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on passe dans l'histoire du peuple juif sur un mode de révélation d'Akadosh Baruch Hu qui est moins évident. Et donc, de la même façon qu'on aurait pu se poser la question sur Sefer Dvarim, de savoir, mais finalement, est-ce que ça fait partie du Chumash ou pas, ou est-ce que c'est juste un appendice? De la même façon, est-ce que Esther, ça fait encore partie des Sifrei Kodesh, une période historique où on écrit des textes qui sont quelque part une parole divine, ou est-ce qu'on est dans de l'écriture historique? C'est ça la question. Et... Voilà, ça c'est la première chose. Et donc, on comprend la logique que si, pour le coup, on dit oui, effectivement, Sefer Dvarim, ça fait partie de Torah Shebirtav, on peut comprendre que Esther fasse partie des Sifrei Kodesh aussi, au niveau de cette formalité. Maintenant, ça ne règle pas encore la question du Ruach HaKodesh. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a compris qu'on avait enlevé la raison négative que pourquoi est-ce que Esther pourrait pas être intégrée dans les Sifrei Kodesh. Ah, parce que c'est un moment liminaire, que c'est à la base une parole humaine, et comment est-ce qu'on va transformer ça en Sefer? Bon, on a l'exemple de Dvarim, où ça s'est passé comme ça aussi. Maintenant, est-ce que ça a été dit Bichal Beruach HaKodesh? Alors, on a vu les preuves, rapidement les preuves qui sont avancées, qui sont celles qu'il y a un dévoilement de choses qui ne sont pas accessibles à la déduction humaine. Mais on peut se poser la question sur les autres livres aussi. Comment est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'il y a une discussion sur, en gros, sur, pas en gros, même précisément, Kohelet, Shirashirim, Ruth et Esther. Alors, j'ai fait une recherche avec la concordance. Donc, on sait que dans Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem. Dans Shirashirim, il n'y a pas le nom d'Hachem. Shirashirim, il n'y a pas le nom d'Hachem. Et dans Kohelet, il n'y a pas le nom d'Hachem. Il y a Elohim, il n'y a pas de nom d'Hachem. Et dans...
Il y a Elohim Yireh.
Ouais. Mais c'est pas Hachem.
Ah, pas Yukevavke.
C'est pas Yukevavke.
Mais même Elohim, il n'y a pas dans le...
Dans Shirashirim, non. Mais le seul point commun aux trois, c'est ça. Et même dans Ruth, il y a le Yukevavke, mais il intervient systématiquement dans des formules de salut ou de bénédiction. Ça fait partie du discours des gens quand ils vont s'adresser l'un à l'autre. Voilà, ils vont se bénir ou ils vont se saluer par le nom d'Hachem. Or, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dans Maseret Makot, Daf Kaf Gimel Amud Bet, on nous dit qu'il y a précisément trois choses qui ont été décidées d'abord par le Sanhédrin terrestre et qui ont été approuvées par le tribunal céleste. Ces trois choses-là, c'est Megillat Esther, la mitzvah de Mikra Megillah, le fait que Boaz a institué qu'on se salue en utilisant le nom d'Hachem, et troisième chose, c'est le fait que le Maaser Rishon était transféré au Beth Amikdash plutôt que d'être donné au Lévim. On pourrait rentrer plus profondément sur l'articulation des trois, mais en tout cas, on voit que cette idée que de la présence du nom d'Hachem dans la Megillah de Ruth, il est aussi traité sur un mode un peu particulier, en parallèle avec Megillat Esther, dans cette Maseret Makot. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette histoire de comment est-ce que on a accepté d'intégrer le texte de la Megillah d'Esther dans Sifrei Kodesh. C'est-à-dire que les Chachamim ont été convaincus par les arguments de Esther de Mordechai qu'on était dans un mouvement de transition historique analogue au moment de transition historique de la fin de la Torah chez Birtav. Que là, c'est en quelque sorte la fin de l'époque du Tanakh. Même si pour autant, ce n'est pas le dernier livre chronologiquement qui a été écrit dans le Tanakh, c'est-à-dire les Divrei Hayamim, etc. Parce qu'en fait, comment je suis arrivé à ça? Je me suis posé la question, mais finalement, c'est Divrei Hayamim, c'est écrit après. Personne pose la question de l'insertion de Divrei Hayamim dans le Tanakh. D'accord? Et pourtant, Divrei Hayamim, c'est historique, quoi. Mais effectivement, Divrei Hayamim, le nom d'Hachem apparaît tout le temps. Donc, dans Divrei Hayamim, il y a vraiment une interprétation explicite de l'histoire sur un mode théologique, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans Esther, ce qui n'est pas le cas... Bon, dans Shir HaShirim, c'est encore un cas très particulier, parce que là, Rabbi Akiva, il dit, c'est parce que c'est Kodesh Kodashim. Le Malbim explique pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire que le Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim? C'est quoi Kodesh Kodashim? C'est quelque chose qui, après le Kodesh, il faut passer une deuxième barrière pour l'atteindre. Donc il dit, en fait, le vrai pshat de Shir HaShirim, il est tellement Kodesh qu'on l'a enveloppé d'un faux pshat, qui est lui aussi Kodesh, mais la vraie Kedusha, là où le Shem Hashem il se trouve, il est caché à l'intérieur, de la même manière que pour accéder au Kodesh à Kodashim, il faut déjà passer par le Kodesh. C'est un cas un peu particulier. Mais les autres Kohelet, on voit finalement, c'est pas clair si c'est de la sagesse humaine ou si c'est de la sagesse divine, c'est une discussion. Ruth, c'est encore un peu particulier. Et Esther, c'est aussi, on se pose la question, est-ce que c'est un récit historique ou est-ce que c'est un récit théologique?
En fait, ce qui est marqué au fait, elle porte sur les livres où le tétragramme, en fait, où...
Voilà, c'est ça. C'est ça. Même Ruth, parce qu'on voit que, bon, il n'apparaît pas de la même façon que dans les autres cas, et ça fait partie d'une analyse précise de la Gemara. Voilà. Alors ça, c'est pour l'écriture de la Megillah. Le deuxième problème, c'est l'institution de la fête de la Megillah. Tanou Rabbanan, Yuddalet. Arbaim ushmone nevi'im, ve'sheva neviot, nitnabe'u lahem l'Israël. Velo partout, velo hotiru, alma shekatuf batora. Chutz mimikra Megillah. Nos sages enseignent, il y a 48 prophètes et 7 prophétesses. Alors, le compte exact... Et discuter plus loin dans la Gemara, on dit, mais il y a eu beaucoup plus de prophètes ou de prophétesses. Là, et la Gemara conclut qu'on parle uniquement des prophètes et des prophétesses qui sont mentionnés dans le Tanakh. Et Esther en fait partie. Donc, 48 et 7.
48 prophètes et 7 prophétesses.
D'accord ? Ont prophétisé à Israël et ils n'ont rien enlevé, ni rien rajouté à ce qui est écrit dans la Torah, sauf la mitzvah de lire la Megillah. Maïdarush, Amar Rabbi Chaya Baravin, Amar Rabbi Yehoshua Ben Kocha, Uma me avdut le cherut, Amrinan Shira, Mimita le Hayim lo kol sheken. Donc, Rabbi Chaya Baravin a dit au nom de Rabbi Yehoshua Ben Kocha, pourquoi est-ce qu'on a institué Mikra Megillah sur la base d'un raisonnement a fortiori. Déjà que on a institué un chant quand on est passé de l'esclavage à la liberté, a fortiori, convient-il d'instaurer quelque chose, apparemment un chant, quand on passe de la mort à la vie? Alors, pour l'instant, je lis, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. On va essayer de comprendre après. Iachi, Hallel Naminema. Et si c'est le cas, alors il aurait fallu chanter un Hallel aussi, il aurait fallu instituer un Hallel pour la lecture de la Megillah. D'accord ? D'ailleurs, on l'a fait pour Hanouka. On l'a fait pour les 8 jours de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait à Megillah ? Si cette logique, c'est vraiment que finalement, on est passé parce que Hanouka, on est passé aussi d'une non-liberté à une liberté, et donc on devrait appliquer aussi ce Kalvar Homer à Purim. Plusieurs réponses à ça, trois grandes réponses. Les fiches en omrim halel al nes shebechutza laaretz. Parce que on ne peut pas décréter la récitation du Hallel pour célébrer un miracle qui a eu lieu en dehors de Eretz Israël. Yetziat Mitzrayim denes shebechutza laaretz echiam rinan shira kedetania atchelo nichnesu leeretz Israël uchsharu kol haaratzot lomar shira mishinichnesu leeretz Israël lo uchsharu kol haaratzot lomar shira. Alors c'est vrai que on récite aussi un Hallel à Pessah pour la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, par définition, ce n'était pas en Eretz Israël. Alors, effectivement, quand on n'était pas du tout rentré en Eretz Israël, on pouvait réciter le Hallel sur n'importe quelle nes qui se passait dans le monde. À partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, c'est que en Eretz Israël. Rav Nachman Amar, donc ça c'est la première option. La première c'était, j'ai oublié de citer, c'était Rav Avin, c'est ça ? Rabbi Yoshua ben Mekocha, pardon. Rav Nachman il dit, Kriyata Zohilela, Halela. La lecture de la Megillah a la même fonction que la récitation d'un Hallel. Quand tu lis la Megillah, c'est comme si tu récitais le Hallel, donc tu n'as pas besoin de répéter le Hallel après. Deuxième option. Troisième option. Rava Amar. Bishlama Hatam. Hallelu Avde Hashem. Velo Avde Paro. Et là, Hallelu Avde Hashem. Velo Avde Achashverosh. Arti Avde Achashverosh Anan. Dans le Hallel, on dit louez-le, vous qui êtes les serviteurs d'Hachem. Sous-entendu, vous êtes les serviteurs d'Hachem parce que vous n'êtes plus les esclaves de Paro. Mais là, comment est-ce que tu peux dire louez-le, serviteur d'Hachem? Sous-entendu, vous n'êtes plus les serviteurs d'Achashverosh. Or, on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. Ça ne nous a pas sorti de galoute, Pourim. Donc c'est pour ça que finalement, ça remet un petit peu en question le calvachomer qu'il y avait au début. Alors il faut comprendre l'articulation de ces trois arguments. Ce qui est commun aux trois, tout le monde est d'accord que, effectivement, ça a été un basculement, un passage d'un état à l'autre, Pourim. La question, c'est de savoir en quoi est-ce que. Comment est-ce qu'on évalue ça ? Pour Rabbi Yoshua ben Korcha, du fait que ça ne se passe pas en Eretz Israël, ou pour Rava, du fait que finalement, c'est vrai qu'on est passé de la mort à la vie, mais on n'est pas passé non plus de l'asservissement à la liberté, alors cette transformation-là, elle est incomplète. Donc c'est pour ça qu'on ne récite pas de Hallel. Rav Nachman, lui, pense qu'on récite un Hallel, sauf que c'est la Megillah. Mais si c'est comme ça, si finalement les événements de Pourim, c'était bien, on a eu de la chance que ce soit passé, mais c'est pas non plus la joie totale, quoi. Là, il y a même le Khatam Sofer qui est très dur dans les Drashot, où il dit pourquoi est-ce qu'on boit à Pourim ? On est comme des alcooliques, on boit pour oublier que finalement on est toujours Avdei Achashverosh. Donc c'est pas la fête, c'est pas l'éclat total, parce qu'on a été, on a échappé d'un poil à l'extermination. Bon, mais on est toujours dans une situation de galoute, de menace d'assimilation, etc. Okay.
Même l'histoire d'Estelle est dramatique, parce que finalement elle reste jusqu'à la fin de sa vie dans le palais royal.
Ben ouais, comment tu veux expliquer ? Moi je vois ça, moi j'ai une fille de 4 ans, ok ? Où on leur explique que il faut se marier avec un Ben Torah et un juif et qu'il fait des mitzvot, etc. Elle arrive Pourim, et on lui explique, voilà, Esther elle s'est mariée avec Achashverosh, elle n'était pas juive, etc. Comment tu expliques ça, gamin ? C'est vrai que pour nous, c'est pas facile, c'est rempli de choses
transgressives. C'est un thème d'ailleurs chez les Maras, ils ont thématisé la maramitude par Esther. Voilà.
Et finalement, ce qui a déclenché les événements de Pourim, c'était quoi ? C'était le Mishté d'Achashverosh, qui était la fête républicaine de l'assimilation. C'est-à-dire, en fait, le fait que les juifs et les non-juifs, ils sont égaux, et on peut tous manger à la même table, et les autres, ils mangent kasher, et les autres, ils mangent taref, et on mange tous ensemble, et on est tous potes. À Icar, c'est que vous ne pensez pas à reconstruire Beth Amikdash. Ça, on est toujours dans cette situation-là. Alors pourquoi est-ce que finalement, on fait quelque chose ? Alors, première réponse, qu'effectivement, quand on dit qu'on est passé de la mort à la vie, c'est que, contrairement à d'autres massacres qu'il y a eu dans l'histoire juive, là, la menace, elle était totale, qu'on allait exterminer tous les juifs jusqu'au dernier. Okay. Ça ne s'est pas produit. Okay. Ça, c'est réponse pchat. Pourquoi pas ? Mais, d'une manière un peu moins pchat, on peut réfléchir sur c'est quoi cette histoire de... du passage de Avdout l'Echerout et de la Shira dont on parle. C'est vrai que si on lit ça rapidement, on se dit, mais Avdout l'Echerout, c'est Pessah, c'est Kriyat Yam Souf, et la Shira, c'est Shira Tayam, et c'est là qu'on chante le Hallel, okay, à Pessah, et ça a un parallèle avec Hanouka, où c'est pareil, on est passé d'un asservissement à une relative liberté, et on chante le Hallel aussi, et basta. Mais, à mon avis, c'est pas si pachoute que ça, que, enfin, on peut avoir une autre lecture. Que finalement, le passage de la Avdout à la Kherout, il s'est pas fait définitivement à Kriyat Yam Souf. Il s'est fait à Har Sinai. Donc, vous connaissez le jeu de mots. Kharout à la Louchot, Altikra Kharout et la Kherout. Gravé sur les tables. Ne lis pas gravé Kharout, mais Kherout, c'est la Torah, c'est le don de la Torah qui donne la liberté. Donc, le passage vraiment de l'esclavage à la liberté, c'est par la Torah. Et on sait que la Torah, elle est appelée Shira. Et donc, que...
Où ça ?
Alors, dans, au début de Parashat Hazinu, Hachem dit à Moshe, écris cette Shira. Et il y a une discussion, est-ce que la Shira, c'est Hazinu, ou est-ce que c'est toute la Torah ? Et finalement... Et ça rejoint la problématique qu'on a vue au début, de ce parallélisme-là. Purim, c'est du même ordre. C'est-à-dire, de la même façon que à Har Sinai, on est passé d'un état d'asservissement intellectuel, un état de liberté spirituelle, par l'acceptation de la Torah. Mais ça, c'est resté au niveau de cette question d'être libre ou d'être pas libre. Et c'est quelque chose que les Bnei Israël, ils avaient oublié au moment juste avant Pourim. Parce que finalement, ils se rendaient compte qu'ils pouvaient être tout à fait libres, apparemment, sans la Torah. Puisque tu vois, on est invité à la garden party d'Achashverosh. On a réussi, on est aussi libre que n'importe quel noble perse. Donc, à raison de la Torah. Et qu'est-ce que ça leur a révélé, les événements de Pourim ? C'est que la Torah, ce n'était pas seulement une question de liberté pour eux, mais c'était une question de vie ou de mort. Et finalement, juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Aman, il est arrivé, il a commencé à dire, et tu sais, et il y a un peuple qui est dispersé, qui est répandu dans tout ton royaume, et qui ne suit pas la même religion, qui ne suit pas tes mêmes lois, etc. Bon, ce n'était pas vrai, les Juifs, ils étaient tellement assimilés qu'ils acceptaient de se prosterner devant... Aman, ils venaient au festin, etc. Donc, ils n'étaient pas dans une situation de ghettoisation et de communautarisme. Au contraire, ils étaient ultra assimilés. Ils se sont rendus compte que finalement, non, ils ne pouvaient pas s'en échapper. Léo Strauss, il a écrit un bouquin comme ça, qui s'appelle « Pourquoi nous restons juifs ?» Il a fait une intervention devant une association américaine dans les années 60. La première raison pour laquelle on reste juif, c'est que de toute façon, même si on ne veut pas, on n'a pas le choix. Et si on ne veut pas, les autres, ils nous le rappellent. Et donc, les Bnei Israël se sont rendus compte à Pourim que l'acceptation de la Torah, ce n'était pas seulement une question de servitude ou de liberté, mais c'était mamash une question de vie ou de mort, et que c'était la Torah qui déterminait leur vie. Donc on comprend qu'à ce moment-là, il y a un calva homer, que finalement... La Torah, et c'est ça que nous apprend Pourim, elle est la condition de la vie du peuple juif avant même de poser la question de la liberté spirituelle du peuple juif. Alors on peut comprendre aussi qu'effectivement, la simple vie n'est peut-être pas suffisante pour instituer un Hallel, parce qu'il faut non seulement vivre la Torah, mais vivre la liberté dans la Torah. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir ailleurs, c'est ce qu'on va voir à Pessah, c'est ce qu'on va voir à Shavuot, c'est ce qu'on va voir à Hanouka aussi. Mais de l'autre côté, ce qui est célébré à Pourim et ce qui justifie l'introduction d'une nouvelle mitzvah, c'est que c'est quelque chose de très fondamental, de très basique, qui est le fait qu'on est vivant grâce à la Torah. Tout simplement vivant.
Est-ce qu'on peut synthétiser ce que oui. tu dis ? C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à la sortie d'Égypte,
les enfants d'Israël ont vécu que grâce à Matan Torah, ils sont sortis à la liberté, et que là, avec les événements de Pourim, c'est un élément supérieur, que pas seulement la Torah les accède à la liberté, mais les accède à leur vie. C'est ça. C'est ça le Kalvachomer de l'Agmara.
C'est ça le Kalvachomer, mais on comprend que ce Kalvachomer n'établit pas forcément Mavet Lechaim, de la mort à la vie, est supérieur à de l'esclavage à la liberté. Parce qu'il vaut mieux vivre libre que vivre esclave. C'est pas le bout du chemin ce qu'on a acquis à Pourim. Mais c'est quelque chose de très fondamental. Et finalement, c'est presque plus fondamental que la Torah elle-même, et c'est pour ça que le nom d'Hachem, il n'apparaît pas. Parce que le nom d'Hachem, c'est quelque chose qui vient en surplus, c'est quelque chose qui vient t'éveiller à la transcendance par rapport à ta vie immédiate. Et c'est ça qui vient te faire, qui vient te sortir de l'immédiateté de ta vie, et qui vient te donner un projet, et te donner un projet de liberté. Mais quand c'est juste la vie versus la mort, on n'est même pas encore au niveau d'une spiritualité. Mais paradoxalement, tu vois là, puisque c'est la Torah qui est au fondement de tout ça, que paradoxalement, on dépasse cette dichotomie entre immanence et transcendance. Parce que finalement, ça te dit que... C'est-à-dire qu'on aurait pu, voilà, on aurait pu penser que le judaïsme, c'est quelque chose qui vient ajouter quelque chose au peuple juif par rapport aux autres peuples, que le peuple juif, dans sa vie de tous les jours, il est comme tout le monde. Après, il a un plus qui est ce rapport à la transcendance, qui est la religion. Le spirituel. Ça, c'est Hachem. À Dieu, et je m'adresse à Dieu, et je fais les prières, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la matérialité, si tu préfères, même du peuple juif, elle est aussi conditionnée par la Torah. Et donc, que la Torah, le rapport à Dieu, c'est pas seulement un rapport de transcendance, de mouvement spécifiquement religieux, mais c'est quelque chose qui est la matière même de notre vie, de notre quotidien, des choses les plus mondaines. Et donc finalement, le rapport au divin, c'est pas juste un rapport de transcendance de quelque chose qui est loin et qui nous dépasse, mais c'est quelque chose qui est déjà immédiatement présent.
Est-ce qu'on peut dire un peu en d'autres termes par exemple lorsqu'on voit que Enoch écrit le Vaïkra Bechem Hachem, le fait d'invoquer Dieu est d'une certaine manière montrer une distance.
C'est ça.
Puisqu'on dit que Enoch, Rambam dit que Enoch s'est trompé une grande tromperie et que finalement il a marqué une distance avec Dieu. En quoi ? En nommant Dieu. C'est vrai qu'Abraham va dire la même chose parce qu'il fallait retrouver un contact. Donc nommer Dieu finalement montre quelque chose d'exceptionnel. Mais le fait qu'on ne nomme pas Dieu montre une plus grande proximité finalement.
C'est ça.
C'est ça. C'est ça ce que tu veux dire.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on rentre avec Pourim dans une phase post-religieuse. C'est-à-dire, c'est pas qu'on se débarrasse de la religion, mais on dit le rapport religieux, le rapport à Dieu en tant que transcendance d'un être qui n'est pas dans le monde et qu'on essaye d'atteindre, etc., c'est une étape préliminaire à quelque chose qui est la vie authentique du peuple juif. Et c'est ça qu'on va voir dans la conclusion. Pourquoi est-ce que ce nom de Dieu, il est absent dans la Megillah ? Alors, on a vu, ok, il est présent, mais il est caché.
Est-ce qu'on peut dire aussi, pour essayer de simplement, c'est pour essayer d'entendre ce que tu dis, c'est par exemple, on dit souvent que quand on étudie la Gemara, on ne voit pas le nom de Dieu. On ne parle pas de Dieu, on parle de est-ce que c'est cachère, pas cachère, est-ce que c'est permis, interdit, on est condamnable, payé, pas payé. Parce que on est dans des choses plus importantes que parler de Dieu.
Oui, ça c'est acquis. Ouais. C'est acquis.
Ouais, c'est... On le vit.
On le vit, on n'est pas là à discuter à chaque fois des preuves de l'existence de Dieu, c'est bon. C'est comme quand tu fais de la physique, tu passes pas ton temps à discuter des preuves de l'existence du monde. Ok, le monde il est là, maintenant on bosse. Et donc, pour reprendre un petit peu sur un second plan ce qu'on a dit, c'est que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le nom de Dieu il est caché? Parce qu'on est passé avec la Megillah d'Esther, déjà dans un temps post-biblique. C'est-à-dire qu'on est passé de Vezot à Torah au Sefer. Vezot à Torah, Zot c'est quoi? Zot c'est une désignation. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée que voilà, effectivement, Dieu il est présent dans l'histoire et on peut le montrer. Zot. Ze keli ve'anveu. Zot à Torah. Asher Shem Moshe. Sefer. On est dans une autre dimension. Sefer, on est dans une dimension livresque, qui est presque identique, finalement, au livre d'histoire Chol. Il n'y a pas de différence formelle en tant que telle. Ce qui va changer, c'est que dans les Sifrei Kodesh, parce que, même si le nom d'Hachem n'apparaît pas, ils sont inspirés par le Ruach HaKodesh, on peut y lire autre chose que le passé. Ce n'est pas juste des chroniques du passé, mais on peut aussi y lire l'avenir. Ça veut dire quoi, y lire l'avenir? Ça veut dire qu'on est capable d'interroger le texte pour y lire plus que les faits du monde. Et la dernière preuve de ce Ruach HaKodesh, c'est que l'avant-dernière, c'est que la Megillah nous dit que ce qui a été décidé par les sages d'intégrer Pourim, a été accepté par le tribunal céleste. C'est ce qu'on voit dans Makot aussi. Et donc, autrement dit, le travail que nous, on a à faire dans un temps post-biblique, où Dieu il est caché, c'est d'essayer, par le Limoud, de comprendre en quoi est-ce que la décision des sages elle est congruente avec la volonté divine. C'est ça notre travail qu'on a à faire. Et qu'est-ce qui caractérise le temps de Pourim? C'est ça, c'est le temps du Sefer. C'est-à-dire que la Torah, c'est non seulement notre liberté, mais c'est notre vie. C'est quelque chose qui est plus immédiat que l'expérience de la présence divine en tant que présence divine. C'est-à-dire en tant que présence, que le divin, il est présent dans le monde, mais il est quand même différent du monde. Elle est à la fois en deçà de ça, en deçà de cette expérience, et elle est en même temps au-delà parce qu'elle dépasse cette problématique de la différence entre Dieu et le monde. Et enfin, pour terminer sur une note un peu plus...
Tov zot zikaron va se faire. Le verset dit, écris cela. Ça, c'est le sacrifice de la Torah.
Voilà. C'est la dimension du Zot.
On désigne Dieu.
Voilà.
On désigne. Mais désigner, c'est une certaine extériorité.
Voilà.
C'est quoi l'étape de Zikaron et c'est quoi l'étape de Sefer?
C'est vrai que Zikaron, j'ai pas tout à fait travaillé ça. En tout cas, Sefer, tu vois que le travail qu'on a à faire, c'est pas un travail d'aller rechercher les preuves de la présence divine dans le monde. Comme certains, ils ont parfois une religion comme ça, ils ont besoin de voir des signes. Alors, ce que nous dit Pourim, c'est que la religion juive adulte, elle n'a pas besoin d'aller chercher des signes de l'action divine dans le monde et des histoires pour parler entre nous, des histoires de messages sur Facebook, qu'il y a eu un S, machin, à Gaza, ou je sais pas quoi, et tu es, ou un tel qui est, où tu vois dans les brochures pour des dons, qu'un tel a eu un S parce qu'il a fait ceci, etc. Ce qu'on nous dit là, c'est, ok, ça c'était bien quand on était dans notre jeunesse biblique, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est capable d'avoir un rapport à Dieu qui ne passe pas par ce miraculeux, qui passe par un récit du monde qui est finalement indistinguable des chroniques historiques.
Par
c'est ça, c'est faire. Ça, quelque chose de neutre.
Quelque chose de neutre. Après, la question, c'est qu'effectivement, il y a une certaine manière de le lire. Certaines manières de voir que même si le nom d'Hachem il n'est pas écrit, il y a quand même du roi Hakodesh.
Est-ce que ça peut dire aussi, une autre application, que la fête de Pourim est un jour comme un autre, c'est pas un jour chômé. On peut faire la fête de Pourim comme un jour banal ou un jour inspiré aussi.
Exactement.
Ça dépend.
T'as pas besoin
d'une grande mécanique.
Non, ou de choses qui soient spécifiquement rituelles. C'est-à-dire, quand tu parles à un goy de qu'est-ce que vous faites à Soukhod, qu'est-ce que vous faites à Pessah, etc. Bon, c'est rituel, c'est bizarre, on prend certains objets avec de la symbolique, des machins, etc. Pourim, on fait rien de tout ça. Est-ce qu'on raconte l'histoire de ce qui s'est passé, on fait la fête entre copains, on se fait des cadeaux. Bon, c'est
le carnaval.
Ouais, c'est le carnaval, c'est la Saint-Sylvestre, c'est ce que tu veux, quoi. Et justement, on...
Mais on met pas un arbre.
On peut, si tu veux.
Ça sympa de pourri.
Décalant la vie
ce soir. OK. Et juste, sur une dernière note, qui n'est pas tout à fait avec ce qu'on a dit, mais quand même... C'est toujours sur ce parallélisme entre, on voit, la Torah et Megillat Esther, qui sont mises en fait sur le même plan. En tout cas, Dvarim et Megillat Esther, c'est mis sur le même plan. Et c'est peut-être une autre raison pour laquelle, ça c'est Alderer Drouche de ma part, pourquoi est-ce que le nom d'Hachem il n'apparaît pas dans la Megillat Esther ? On sait que ça a été un moment où finalement il a failli y avoir une rupture totale d'extermination du peuple juif. Et que donc, voilà, toute l'histoire d'amour entre Am Yisrael et Kadosh Baruch Hu, c'est fini. Quoi ? Parce qu'ils ont fait trop de bêtises, ils sont trop allés avec n'importe qui. On leur a dit une fois, deux fois, trois fois, arrêtez de faire des bêtises. Ils ont continué à faire des bêtises, c'est fini. Donc, en quelque sorte, ça aurait mis fin au mariage entre Hachem et Am Yisrael. Et donc, si on conçoit que la Torah, c'est en quelque sorte la Ketouba entre Hachem et Am Yisrael, finalement, Megillat Esther, c'est le parchemin de la Sota. C'est-à-dire, on nous dit que quand il y a un homme qui suspecte sa femme d'adultère, on teste la femme, on écrit un texte précis sur un parchemin qui contient le nom divin et on l'efface dans l'eau. Et on fait boire ça à la femme. Et si elle est coupable, alors elle meurt dans d'atroces souffrances. Et si elle n'est pas coupable, au contraire, elle devient enceinte et elle porte des enfants. Et donc là, hein, j'ai envie de dire encore une fois à Alderer Drouche que c'est pour ça que le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la Megillat Esther, parce que c'est comme le parchemin de la Sota. C'est qu'il y avait une accusation contre Am Yisrael qu'il avait été infidèle à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, eh ben, écoutez, on va faire comme dans la Sota. Vous allez prendre un texte, on va effacer mon nom. Et on va tester les Béné Israël avec ça. Et on a vu que dans cet effacement du nom divin, que dans cette expérience radicale d'absence apparente d'Akadosh Baruch Hu, Am Israël, il a prouvé qu'il n'avait pas été infidèle à Akadosh Baruch Hu, et que donc, il est sorti victorieux de cette épreuve, et nous, on est les enfants, en quelque sorte, de cette épreuve de la Sota de Am Israël, et Megillat Esther, c'est la trace de cette épreuve. Voilà, je vous remercie.